Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour un numéro où nous allons parler d'urbanisme, comme c'est assez souvent le cas dans cette émission, mais cette fois-ci dans un domaine un peu particulier concernant un périmètre bien défini du centre historique de Toulouse, ce qu'on appelle le site patrimonial remarquable. Il fait désormais l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, entré en vigueur au début de l'année. Cela implique d'ores et déjà un certain nombre de règles à suivre et d'actions à mettre en place pour la préservation et la valorisation du patrimoine architectural de la Ville Rose. Cette démarche est d'autant plus cruciale qu'elle a été lancée alors que certains immeubles et bâtiments anciens du centre toulousain montrent des signes inquiétants de fragilité qui nécessitent parfois l'évacuation de leurs habitants. C'est pour cela qu'il m'a semblé important de mettre ce dispositif à l'ordre du jour de Métropolez-vous, deux semaines après que les premières actions du plan de sauvegarde et de mise en valeur ont été rendues publiques par Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Présentation dans quelques instants avec mon invité du jour. L'élu prioritairement en charge de ce dossier est Annette Léniaud, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. C'est une habituée de l'émission. Bonjour madame et grand merci d'avoir répondu une fois de plus à mon invitation à vous exprimer sur nos ondes.
Bonjour.
Pour poser les bases de notre discussion afin que nos auditeurs comprennent bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez d'abord repréciser ce qu'on appelle le site patrimonial remarquable à Toulouse, puis ce que sont les contenus et les objectifs du plan de sauvegarde et de mise en valeur, les conséquences juridiques et urbanistiques de sa récente entrée en vigueur?
Alors, ce que nous appelons le secteur, ce qui est appelé d'ailleurs de façon tout à fait officielle le secteur patrimonial remarquable, n'est pas nouveau. Il remplace ce qu'étaient autrefois les secteurs sauvegardés. Et le périmètre du secteur patrimonial remarquable, dont du secteur sauvegardé antérieur, date de 86. Donc, en 86, l'État, puisque c'est le ministre de la Culture qui définit un périmètre, a identifié sur Toulouse un site remarquable qui était le secteur sauvegardé. Et il a demandé, associé à ce secteur sauvegardé, la mise en œuvre, il a demandé la mise en œuvre par la collectivité d'un PSMV, qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Bon, ce PSMV a été lancé suite à l'arrêté ministériel, n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Alors, c'est un travail qui se fait en partenariat avec l'État. Donc, c'est l'État qui pilotait, à cette époque-là, qui pilotait totalement cette opération. Moi, je n'y étais pas pour vous dire pour quelles raisons ce document n'est pas arrivé au bout, mais il a été interrompu. Et dès son arrivée en 2014, dès que Jean-Luc Moudenc est revenu aux affaires en 2014 en tant que maire, il a souhaité mettre le patrimoine au cœur de son projet urbain. Et c'est la raison pour laquelle il a souhaité relancer les études pour mettre en œuvre un PSMV. Alors, le site patrimonial remarquable, pour répondre à votre question, c'est vraiment un périmètre. Alors, sur Toulouse, il fait 256 hectares ou 246 hectares. C'est le plus grand de France, l'un des plus grands de France, je crois le deuxième, mais à quelques mètres carrés près. Mais c'est l'un des plus grands français. Et il a été défini par la morphologie du site ancien de Toulousain. Donc, c'est à l'intérieur des remparts, finalement. Donc, son périmètre suit les boulevards. Et puis, sur le site d'Arnaud Bernard, rejoint les remparts pour revenir sur le bord de Garonne, traverse la Garonne pour aller sur une partie de Saint-Cyprien et revient par Saint-Michel. Donc, on le voit, c'est un périmètre qui traduit, qui met en exergue le patrimoine historique, l'histoire de Toulouse. Et c'est l'objectif parce qu'à l'intérieur de ce périmètre, il y a des bâtiments, des immeubles de grande qualité qui méritent d'être ou restaurés ou réhabilités et surtout protégés.
Oui, alors ça concerne plus de 4000 immeubles tout de même, près de 35 000 habitants aujourd'hui.
Voilà, oui.
Et donc, il s'agit de préserver et valoriser aussi le patrimoine architectural de la ville, qu'il soit ancien ou contemporain, afin de conserver son identité à notre chère Ville Rose, et évidemment, toujours à ce que le rayonnement de la métropole puisse se poursuivre, parce qu'il va quand même falloir accueillir de nouveaux habitants, on le sait. Le but, c'est d'arriver à tenir tout ça, à tenir les deux bouts de la ficelle, si je puis dire.
Oui, c'est le défi sur ce secteur-là. C'est un secteur qui doit être préservé. Bien sûr, on préserve, nous préservons le patrimoine, nous préservons l'histoire de Toulouse, mais il ne faut pas s'interdire d'aller de l'avant et de faire évoluer Toulouse. Toulouse est une ville qui se développe, qui a une forte attractivité, qui accueille. Donc nous devons accueillir des populations et il n'est absolument pas question de figer ce territoire historique en disant bah, il est protégé, donc on en fait un musée. Non, ce n'est pas du tout cela.
On ne va pas muséifier centre
voilà,
de Toulouse.
Alors à une époque, les secteurs sauvegardés qui concernaient des périmètres beaucoup plus petits étaient plutôt muséifiés parce que c'était des petits secteurs.
Petits îlots.
Là, c'est le centre-ville de Toulouse, mais c'est le centre névralgique de Toulouse. C'est toute l'activité urbaine de Toulouse. Donc en fait, on associe à ce périmètre un projet urbain. Un projet urbain qui va être traduit dans un document d'urbanisme qui s'appelle le PSMV.
Eh bien, merci pour tous ces rappels qui vont être précieux pour la suite de l'émission et pour comprendre le sens des premières actions du PSMV, du site patrimonial remarquable à Toulouse. Nous allons y venir dans quelques minutes. Pour l'instant, place à l'actualité métropolitaine comme d'habitude, grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu.
Et commençons ce flash d'information par un départ. Le recteur de l'Académie de Toulouse quitte son poste pour rejoindre la capitale. Mostafa Fourard a été nommé chargé de mission auprès du ministre de l'Éducation nationale en Conseil des ministres. Après plus de 4 ans passés au poste de recteur de l'Académie de Toulouse, Mostafa Fourard quitte donc la Ville Rose. Son remplaçant a déjà été indiqué par décret au journal officiel. Il s'agit de Karim Benmiloud, actuellement recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Il est nommé à l'Académie de Toulouse à compter du 26 mars. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est celui qui a le plus perdu de voyageurs depuis la pandémie de Covid-19. L'aéroport de Toulouse-Blagnac a du mal à se relever de la crise de la Covid-19 qui a touché le monde dès 2020. En 2024, tout vol confondu, l'aéroport a accueilli 7,8 millions de voyageurs contre 9,5 millions en 2019. Cela représente une baisse de 18,5%. Aucun aéroport français n'a vu sa fréquentation chuter de manière aussi importante. Les vols nationaux sont en souffrance. Les entreprises préfèrent désormais souvent les visioconférences aux déplacements et on ne se déplace plus forcément pour une signature de contrat. Près d'un tiers des passagers se déplaçaient pour le travail en 2019. Ce n'est plus qu'un quart en 2024. C'est aussi 7% de passagers en moins en un an sur les vols nationaux. Le trafic international reprend lui en revanche des couleurs. Le nombre de voyageurs vers l'étranger augmente de 7% et retrouve ses niveaux d'avant la crise sanitaire. La finale de l'Académie de Toulouse, Mathez en 180 secondes, a lieu lundi prochain au Théâtre Sorano dès 18h30. 17 doctorants et doctorantes vont relever un défi de taille. Ils auront 180 secondes pour captiver le public en présentant leur sujet de recherche. Organisé à Toulouse par la communauté d'universités et établissements de Toulouse et le CNRS, ce concours est l'occasion d'explorer les frontières de la recherche. À l'issue de cette soirée, le premier prix représentera l'Académie toulousaine lors de la finale nationale du concours qui se tiendra le 17 juin à Paris. Cette année, la finale académique sera rythmée par des thématiques variées reflétant les enjeux importants pour le monde de demain, l'environnement, l'éducation, la santé et bien d'autres. Deux hôpitaux de Toulouse parmi les meilleurs au monde. Deux hôpitaux toulousains figurent dans le classement des 250 meilleurs établissements de soins du monde pour 2025, publié par le magazine américain Newsweek. Parmi les 17 établissements français présents, l'hôpital Purpan qui arrive à la 132e place, la clinique Pasteur est 235e, Purpan se place lui 8e des établissements français. Tisséo organise une exposition dédiée aux anciens tickets de transport en commun de la ville de Toulouse, organisée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des transports urbains et interurbains toulousains. Cette exposition se situe à l'espace voyageurs de Tisséo, situé au métro Jean Jaurès. Ici, des tickets de métro sont exposés, du plus ancien datant de 1865 au plus récent qui sortira le 26 mars prochain, le ticket rechargeable. Une exposition dans l'air du temps pour Tisséo alors que les tickets jetables n'existeront bientôt plus. Sur place, au-delà des tickets, il y a aussi des anciens valideurs à découvrir jusqu'au 29 mars.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce très complet panorama de l'actualité métropolitaine. Annette Léniaud, est-ce que vous souhaitez réagir à certaines informations de ce flash ? Peut-être d'abord à celle qui concerne la baisse d'activité de l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Oui, donc voilà, moi, je trouve que ça nous interpelle malgré tout, hein, cette baisse de trafic. Mais ce n'est pas très surprenant dans la mesure où les habitudes des salariés ont changé, des chefs d'entreprise aussi, parce que certains... Prendre l'avion comme on prenait une voiture auparavant, parce que c'était un petit peu ça, c'est plus tout à fait dans l'air du temps, dans le contexte que nous avons. Donc, ils privilégient parfois le train. Et puis, il y a la visioconférence qui a complètement
révolutionné.
Parce que je suis vice-présidente de la Fédération des agences d'urbanisme à Paris. Mais j'y vais jamais. Je suis en visio. Mais c'est organisé comme ça. Alors, les Parisiens ou les proches de Paris, ça leur permet d'aller à Paris parce qu'ils ont sans doute d'autres activités à faire probablement. Mais ceux qui sont un peu loin n'y vont jamais. Et d'ailleurs, il y a des décentralisations de bureaux pour permettre aux régionaux d'accueillir et puis que l'on puisse se rencontrer. Le deuxième point qui m'interpelle dans votre flash, c'est bien sûr, et qui me réjouit, c'est la performance
des bons classements des hôpitaux et cliniques
toulousaines. Donc on sait que c'est la santé de façon générale, mais les cliniques et hôpitaux, des sites d'excellence. Donc, voilà, on ne peut que se réjouir.
D'autant plus que ça joue pour l'attractivité de notre territoire,
bien sûr,
grandement.
Bien sûr.
C'est qu'avoir un pôle de santé performant, ça aussi c'est rassurant pour ceux qui viennent s'installer territoire donné.
Puis il y en a qui viennent se faire soigner surtout.
Absolument, il y en a qui viennent même de loin.
Et de très loin.
Oui. Merci d'avoir bien voulu réagir à l'actualité métropolitaine. Nous allons maintenant pouvoir revenir au sujet principal de cette émission, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV, du site patrimonial remarquable à Toulouse.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Annette Léniaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains, également adjointe au maire de Toulouse. Jusque-là, j'en parlais tout à l'heure en introduction, les fragilités constatées par les services municipaux des immeubles du centre historique étaient souvent dues, il faut bien le dire, à des travaux réalisés sans études structurelles, ni même autorisation de travaux par des particuliers, pour lesquels la mairie de Toulouse n'avait aucun moyen de contrôle. Et une des conséquences de l'entrée en vigueur du PSMV du site patrimonial remarquable, c'est a priori que cela devrait permettre d'y remédier.
Oui, ces autorisations de travaux sont obligatoires. Elles le sont obligatoires. Mais il est difficile pour la collectivité, sans moyens, que nous n'avions pas, puisque nous n'avions pas de documents d'urbanisme type PSMV pour intervenir, sans moyen pour intervenir. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que c'est un document, le PSMV. Et la surveillance, en quelque sorte, de ce patrimoine à l'intérieur du secteur sauvegardé. Et ce PSMV, ce travail se fait avec l'ABF et avec la DRAC. Donc, nous travaillons en collaboration. C'est vraiment un travail de co-construction d'un document d'urbanisme à l'échelle de ce secteur patrimonial qui se fait avec l'ABF. Et vous savez que l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, est un sachant dans le domaine du patrimoine, avec bien sûr la DRAC et tous les conservateurs des monuments historiques.
Donc, je rappelle que la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Pour ceux qui ne
sauraient pas. C'est un travail de co-construction avec les sachants. Ensemble, nous avons travaillé sur un règlement qui permettait de garantir la préservation, la conservation du patrimoine et l'évolution du centre-ville, puisque je vous disais que c'était un projet urbain. Alors, pour en revenir aux autorisations, elles sont terribles, ces autorisations, parce que supprimer des cloisons comme ça a pu être fait, ce sont des cloisons. Il faut savoir que le centre-ville, il est du Moyen-Âge. Il y a plusieurs quartiers avec des identités différentes, mais globalement, on a un quartier historique qui démarre au Moyen-Âge. Donc, avec des ruelles et des constructions à pans de bois, par exemple, qui datent d'une époque où on construisait, alors des cloisons sans doute, mais des cloisons parfois un peu porteuses. Et quand on les démolit, il ne reste plus que les vraies cloisons, peut-être. Et celles-ci, si on les enlève, il n'y a plus rien qui soutient.
Plus de murs porteurs.
Il n'y a plus de murs porteurs. Donc, on a frisé des catastrophes. Hein, donc, il y a eu des problèmes qui ont été posés et qui étaient, pour certains, dans le passé, liés à des problèmes de cloisons porteuses. Donc, on voit bien que les propriétaires ont une responsabilité lorsqu'ils font des travaux, parce qu'ils peuvent mettre en péril non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs voisins. Et nous avons alerté là-dessus en disant « Attention, attention, vous devez déposer des autorisations sous peine d'amende importante hein, quand même. Donc la mise en œuvre de ce PSMV a permis de donner des règles et d'interpeller et d'alerter. Bon, peut-être aussi les catastrophes qui ont eu lieu il y a peu de temps ont permis de réveiller ceux qui peut-être étaient endormis et faisaient leurs travaux sans rien dire. Donc nous avons eu des demandes hein, de personnes qui nous ont dit oh, j'ai fait des travaux, est-ce que... Bon, voilà. Donc dans le cadre du PSMV, nous allons demander des diagnostics structurels pour mieux connaître la solidité de
la structure,
la structure du voilà la solidité de la structure des bâtiments, mais aussi un diagnostic sanitaire. Est-ce qu'il y a des moisissures, des problèmes de salubrité, y compris dans les cours, identifier tout ce qui permettrait de mesurer l'état d'une copropriété. Voilà. Donc c'est grâce au PSMV que nous allons pouvoir à chaque demande d'autorisation avoir ces éléments caractéristiques qui vont identifier la qualité du bâti.
Alors, j'ai vu qu'il allait y avoir une expérimentation d'un permis de louer dans le secteur du site patrimonial remarquable, avec un droit de regard de la collectivité sur l'état des logements en contrôlant leur salubrité, c'est ce que vous venez d'évoquer. Il y a une étude aussi qui a été demandée par Jean-Luc Moudin, qui a missionné Europolia, une étude sur l'état du bâti ancien du centre-ville, pour déterminer quels moyens il faudra mettre en place pour faire tous ces contrôles et éventuellement intervenir. Et puis, donc, il y aura les résultats d'une première étude préopérationnelle qui a déjà eu lieu, je crois, fait, qui a permis d'identifier sur le périmètre concerné les outils qu'il faudra peut-être utiliser pour accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs immeubles. Avec tout ça, quelles sont les premières actions aujourd'hui du PSMV qui ont été lancées en ce début d'année, en cette fin de premier trimestre 2025?
D'abord, nous devons informer. Absolument, parce que ce PSMB donne des droits de défiscalisation avec les lois Malraux. Donc, il y a des choses
qui sont intéressantes pour les propriétaires et qui doivent connaître.
Et puis, les propriétaires, nous partons de loin, puisque la plupart des propriétaires faisaient des travaux sans faire de déclaration, mais par ignorance, hein, avant tout. Hein, ce n'est pas par tricherie, mais avant tout par ignorance. Nous devons les informer de tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un gros travail. Le PSMB, il y a un règlement spécifique. Ce n'est pas un règlement d'urbanisme comme le PLUIH, c'est un document différent, c'est piloté avec, j'expliquais, avec l'ABF. Donc il faut en mettre en place toute une démarche pour recueillir les projets, accompagner les propriétaires pour la réhabilitation, la valorisation de leurs fonciers. Donc nous avons une connaissance de l'ensemble des fonciers puisque nous avons fait des inventaires importants extérieur et intérieur des immeubles pour connaître l'état, pour avoir la connaissance de ce patrimoine. Donc nous continuerons, grâce au permis de louer d'ailleurs, qui va nous permettre d'avoir des éléments supplémentaires sur certains appartements. Donc nous devons beaucoup communiquer. Donc nous avons prévu en 2025, ça va se lancer, dès l'approbation, le préfet a pris son arrêté et nous devons traduire, mettre ce document en ligne. Il y a des petites adaptations informatiques que nous sommes en train de faire, mais il va être en ligne très rapidement, donc il sera opposable. Mais il faut beaucoup communiquer avec les propriétaires, les syndics, les professionnels du bâtiment. Nous devons vraiment beaucoup travailler pour informer, donc c'est la première action. Donc nous avons lancé une étude pour mieux connaître l'état de ce bâti, parce que vous avez cité les événements qui ont eu lieu il y a un an, ça nous a fortement interpellés sur la solidité de certains édifices. Donc nous avons commandité une étude auprès de Europolia pour faire un inventaire sur le site patrimonial remarquable, d'abord faire un diagnostic, pour définir quels seraient les secteurs sur lesquels il est judicieux d'intervenir plus que d'autres. Donc, trois secteurs ont été identifiés. C'est Belfort, Arnaud Bernard, bien sûr, et Carme, Place Esquirol. Donc, ça fait partie de trois secteurs très spécifiques sur lesquels il faut travailler. Bon, l'étude que nous avons confiée à Europolia se décline en deux parties. Il y a une partie diagnostique. Alors, diagnostic rapide,
premier diagnostic, hein.
Qui a été fait et qui nous a été rendu, c'est ce que je vous explique. Il y a près de 900
880 bâtiments qui sont concernés.
Ce sont des passoires thermiques,
oui,
en quelque sorte.
Ils sont énergivores, en fait.
Ils sont énergivores. Donc, nous avons des copropriétés dégradées. Donc, on a identifié également ces propriétés dégradées. Donc, nous avons fait un pré-diagnostic.
Il y en a 150 copropriétés qui ont été identifiées comme potentiellement fragiles.
Potentiellement, voilà. Pas ou dégradées.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont prêtes à s'effondrer,
non,
soyons clairs.
Surtout pas. Et le diagnostic va être affiné d'ici la fin juin. Et par la suite, nous demandons à Europolia de faire des propositions d'outils qui permettraient de travailler sur ces périmètres, sur ces quartiers. Bon, les outils, on les connaît un peu. Hein, ce sont des opérations programmées d'amélioration d'habitat avec l'ANA. Donc, au résultat de cette étude, Nous travaillerons avec l'ANAB pour identifier les actions à mettre en place et les chiffrer en même temps. Voilà. Donc c'est précieux comme travail et ça va définir tout ce que nous ferons pour le mandat
suivant. Ce préalable est nécessaire, on doit en passer par là, évidemment pour évaluer aussi l'étendue, si je puis dire, de dégâts potentiels. Alors le permis de louer, il va être expérimenté à partir de quand? À l'automne?
Voilà, il va être expérimenté sur Arnaud-Bernard pendant un an. Nous allons tester. Ça va nous permettre d'abord de vérifier la qualité à la fois patrimoniale, sanitaire surtout, et puis la qualité, on parlait des bilans énergétiques, c'est obligatoire, donc des biens loués. Donc ça nous permet de les visiter, de voir, de nous assurer de ce diagnostic structurel, hein, voir s'il est. Et puis éventuellement, si ça ne l'est pas, on interdit la location. Voilà.
Oui. Donc, expérimentation du permis de louer à partir de novembre.
Oui, hein, oui.
Voilà, sur le périmètre que vous venez de...
D'Arnaud-Bernard, pendant un an.
...de décrire. Donc, il y aura des dispositifs de résorption de l'habitat indigne aussi, voilà. Qui seront mis en place. Bon, l'expérimentation, c'est pendant un an, à peu près, du permis de louer.
Oui, une année.
Donc, Arnaud-Bernard, effectivement. On vient de parler de résorption de l'habitat indigne. Il y a des décrets de la loi Habitat indigne qui existent et qu'il faut mettre en application. C'est une obligation. Comment vous allez procéder pour appliquer donc, cette loi et ces décrets?
Je ne suis pas sûre qu'ils soient sortis, les décrets. Il est prévu des décrets. La loi est sortie, mais les décrets ne sont pas mis en application. Pour l'instant,
la loi a été votée en avril 2024.
En avril 2024. Donc nous appelons de nos voeux ces décrets qui vont nous permettre d'imposer un diagnostic structurel aux immeubles situés dans les zones d'habitat dégradé, aux frais des propriétaires et surtout aussi la mise en place d'une nouvelle procédure d'expropriation pour des immeubles indignes, mais à titre remédiable. Voilà. Un bâtiment indigne, il n'est pas forcément à démolir. Il peut être remédié à son indignité, si je peux dire, et il peut y avoir une procédure d'expropriation rapide. Voilà.
Procédure qui concerne les propriétaires de logements frappés par au moins deux arrêtés.
Deux arrêtés de péril, ce qu'on appelle les arrêtés de péril, ou d'insalubrité,
au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu deux arrêtés, mais là, la procédure s'enclenche.
Voilà, oui.
Alors, vous parlez des actions de communication autour de la mise en place du permis de louer. Oui. Quelles vont-elles être? Comment vous allez toucher ceux qui peuvent être concernés?
Alors, il y a beaucoup de réunions et de contacts qui vont être pris avec tous les professionnels et propriétaires concernés par soit le permis de louer, soit le PSMV, mais à l'intérieur du périmètre. Donc il y a une forte action de communication. Sur le PSMV, on est en train de définir des documents faciles à lire, faciles à assez synthétiques, qui vont permettre aux habitants de prendre connaissance d'à la fois, il n'est pas question de les effrayer, mais de les alerter, de les prévenir, mais également de leur donner les actions de la collectivité pour les accompagner aussi. Hein, voilà.
S'il y a une autorisation de permis de louer avec réserve ou carrément un refus de mise en location, comment vous allez les justifier auprès des propriétaires sur lesquels ça va tomber?
D'abord, il faudra le justifier pour quelles raisons il ne peut pas louer. Et puis, il faut assortir
cela. Il y a un dossier qui sera
assortir à des propositions de travaux pour remédier à cela. Donc, il faut aussi les accompagner parce que pour certains... il n'y a pas que des marchands de sommeil, hein, donc il y a certains marchands de sommeil, là on les connaît, mais c'est aussi l'occasion d'informer les propriétaires que les locations qu'ils ont, elles ne sont pas respectueuses à la fois du patrimoine, mais surtout de leurs habitants et de leurs locataires, et qu'il y a des actions, des travaux à conduire pour améliorer cette situation, et on leur proposera les travaux.
Est-ce que les bailleurs sociaux sont concernés également par toutes ces procédures et les visites de contrôle?
Ça m'étonnerait, parce que c'est des professionnels. Les bailleurs sociaux sont des acteurs publics. Je ne vois pas comment un bailleur social peut louer un logement insalubre. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont exemptés parce qu'ils sont porteurs de la même politique que nous. Ils veulent...
C'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes procéder au contrôle de leur bâtiment et vérifier que...
Bien sûr.
Ils n'ont pas à la collectivité
de faire ça.
Non.
À mon avis, quand ils relouent, quand ils doivent louer, il y a une surveillance. Enfin, je vois TMH, j'imagine même pas un instant que TMH puisse avoir des... D'ailleurs, ils rénovent beaucoup, les bailleurs sociaux. Hein. Ils ont des actions de rénovation de leur patrimoine. Hein. Bon, quelquefois, ils les vendent, ils en vendent un peu, mais ils rénovent beaucoup. Donc, ils réhabilitent. Peut-être que les plus anciens bâtiments, il y a peut-être quelques passoires thermiques, ça probablement. Hein. Mais il y a des actions, je sais que là, alors je n'ai pas les chiffres, là, je ne peux pas vous les donner, mais TMH avait réhabilité énormément de bâtiments. Jean-Luc Mondin s'était même engagé à ce qu'il y ait de la réhabilitation du patrimoine de TMH.
Écoutez, je ne sais pas si nous avons fait le tour. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce PSMV, beaucoup de mesures. Et il y en aura d'autres, parce qu'il y aura d'autres actions, je suppose, qui seront diligentées dans les années qui viennent. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Annette Legnaud, d'être venue nous présenter le contenu et les actions du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV, du site patrimonial remarquable à Toulouse. Je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver une présentation de ce dispositif et de sa mise en œuvre en se connectant au site www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.